Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région.
Top Music.
Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast L'Essentiel, c'est la santé. Avec nous dans le studio, Christina Bald, diététicienne. Après 10 ans au CHU de Strasbourg, vous venez de lancer votre activité au pôle médical d'Oberhofen-sur-Moder. Avec nous pour parler nutrition, comment adopter une alimentation plus saine. Alors tout d'abord, Christina Bald, avec les différents confinements, est-ce qu'on a pris du poids? On avait du mal à rentrer dans son jean après le premier confinement. On avait pris en moyenne, selon un sondage, 2,5 kg. Est-ce qu'on a changé nos habitudes de consommation?
Alors oui, effectivement, hein, le confinement a changé certaines de nos habitudes, alors en bien et en mieux aussi, hein, en bien et en mal plutôt. C'est surtout aussi côté activité physique où on a été plus sédentaire, on a fait moins d'activité physique. Il y a quelques études qui l'ont montré, hein, auprès de la population française notamment. Donc on a fait moins d'activité physique et on a modifié nos habitudes alimentaires dans le sens où on a pour certains, davantage grignoter parce que le confinement a été source de stress. Donc, qui dit stress dit aussi grignotage plutôt sucré. Hein. On mange nos émotions, donc souvent on est à la recherche d'aliments plaisir.
Donc, et on n'avait que ça, que ce plaisir parfois. C'était c'est l'alimentation. Hein.
Ouais, c'est vrai. Alors, les sondages, enfin les études montrent que vraiment c'est typique des personnes qui étaient les personnes à la maison, en télétravail, avec les enfants encore aussi à l'école à la maison, qui avaient beaucoup de stress, gérer les enfants, le travail à côté. Donc là, typiquement, c'est les personnes qui ont été plus susceptibles de prendre du poids. Après, ce qui a été positif, c'est que du coup, il y avait plus de restaurants, plus moyen d'aller chercher peut-être des plats préparés aussi, ou moins. Donc on s'est plus tourné vers le fait maison, les préparations vraiment avec des produits frais. Donc ça, par contre, c'est plutôt une bonne habitude qu'on a prise, quoi.
Oui, fini le resto d'entreprise, on prépare soi-même ses plats, et avec ça, on maigrit?
Alors, peut-être pas forcément. En tout cas, c'est vrai que ça dépend bien sûr de la composition des plats. Si on recherche plutôt les aliments frais, il y aura plus de légumes, plus d'aliments bruts, en fait. Parce que c'est vraiment les produits transformés qui pose effectivement souci par rapport à la prise de poids, mais aussi aux maladies, maladies cardiovasculaires, diabète, cholestérol, etc. Donc finalement, le fait d'avoir moins de tous ces produits riches en sucre, en graisse, en sel, c'est quand même un point positif pour la santé, déjà avant la perte de poids, on va dire.
Donc on a quand même pris quelques bonnes habitudes, mais des moins bonnes, surtout aussi avec le télétravail,
ouais,
plus de grignotage.
Oui, c'est ça. Alors bon, du coup, plus sédentaire, hein, y a une étude qui a montré qu'on était en moyenne 8 heures par jour assis pendant le confinement, le premier confinement, alors qu'auparavant, c'était plutôt de l'ordre de 5 heures par jour. Donc, il y a quand même un delta de 3 heures entre les deux. Donc ça joue énormément. Après, bon, ça dépend des habitudes de chacun. Hein. Y en a qui vont être tentés de grignoter en travaillant, peut-être. C'est surtout, finalement, les prises alimentaires à l'écart des repas et l'absence de structure au moment des repas aussi qui fait que on peut prendre du poids plus facilement. Et les familles avec des enfants, il y avait de la demande aussi beaucoup des enfants de manger peut-être pas forcément au moment des repas. Donc c'est cette perte de structure qui était un peu moins intéressante, on va dire, quoi.
Et c'est vrai que quand on télétravaille, on a le frigo à portée de main.
C'est ça, le placard qui nous appelle avec les bonbons, le chocolat.
Donc, difficile parfois de résister à la tentation.
C'est ça.
Alors, vous êtes diététicienne au pôle médical d'Oberhofen-sur-Moder. On vous consulte souvent pour perdre du poids. Que pensez-vous des régimes?
Alors, pour moi, le mot régime, déjà, j'aime pas ça. Si je dois l'employer parce que, voilà, il faut une alimentation particulière, on va plutôt appeler ça comme ça, hein, alimentation particulière pour une pathologie X ou Y. Après, le régime amaigrissant en lui-même, hein, comme on en entend souvent parler, ça veut dire ça. Le problème, c'est que on aura une perte de poids rapide parce qu'on va supprimer tout un tas de groupes d'aliments, que ce n'est plus du tout quelque chose d'équilibré, en fin de compte, et qu'on risque des carences. Et puis, perte de poids très rapide, certes, mais aussi reprise, voire encore plus que le poids qu'on avait avant de démarrer cette restriction calorique, quoi, en fin de compte.
Les régimes font grossir?
Au final, oui, on pourrait presque dire ça sur le long terme, en tout cas, hein, parce que la perte de poids, comme je disais, elle va se faire très rapidement, sauf que souvent, c'est des choses qui vont être très restrictives, où on ne va pas tenir compte bah, des habitudes de la personne, de son mode de vie, de son travail, du fait qu'elle aime ou non faire à manger, etc. Donc voilà, on va imposer bah, une restriction. Souvent, on va enlever le sucre, les féculents, le gras, etc. Mais il nous en faut. Il nous en faut pour vivre, pour notre cerveau, pour, voilà, pour faire notre activité si on en a une, etc. Donc si on supprime ça, effectivement, on va perdre du poids rapidement parce qu'on élimine une bonne partie des calories. Mais bah, on ne tient pas sur le long terme, il y a de la frustration. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à éviter, c'est cette frustration, quoi. Vraiment, c'est le maître mot, c'est éviter la frustration.
Notre cerveau enregistre cette frustration ?
Oui, c'est ça. En plus on est frustré et plus on a envie de quelque chose. Hein. On a sûrement tous été déjà confrontés au fait de ne pas pouvoir manger ou boire quelque chose qu'on aime. Et puis, bah, bizarrement, ça devient presque une obsession, quoi. Hein. Donc vraiment, il y a le cerveau enregistre ça. Et puis, on a aussi un poids un peu, standard, hein, que notre cerveau enregistre. Et puis, si on perd du poids trop rapidement, bah, le cerveau va tirer la sonnette d'alarme pour revenir à ce poids. Donc, ça aussi, c'est quelque chose où il faut faire très attention et il vaut mieux perdre du poids de manière progressive.
Alors, progressive, ça veut dire quoi ?
Eh ben, sur le long terme, souvent, j'ai des gens qui viennent me voir pour perdre voilà, du poids, pas forcément dans un temps très restreint. Je leur dis, 1 kilo par mois, c'est déjà très bien. C'est déjà une bonne moyenne. Et au moins, on risque pas des carences. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est quand on perd du poids rapidement, on perd du muscle. Et ça, c'est vraiment délétère pour l'organisme, surtout en ce moment. Hein. L'immunité, les cellules immunitaires, elles sont faites de protéines et c'est dans nos muscles que se trouve cette immunité. Donc si on perd trop de muscles, bah, voilà, on risque tout un tas d'autres complications.
Alors en ce début d'année, c'est l'heure des bonnes résolutions et pour certains, c'est parfois l'heure des régimes. Vous nous avez dit donc les régimes, c'est pas bon. Comment perdre du poids efficacement ?
Alors donc en passant par le rééquilibrage alimentaire. Donc vraiment, les diététiciens vont tenir compte bah, des habitudes alimentaires, comme je vous disais, de la personne. Et en fonction, on va rééquilibrer les choses. Hein, on va les aider à manger mieux, plus sainement. Bien sûr, à aussi modérer les quantités consommées. Ça, c'est très important. Souvent, on mange très vite et on mange du coup beaucoup parce que notre cerveau a besoin de 20 minutes pour arriver à assimiler le fait qu'on est à satiété. Donc, si on mange en 5 minutes ou 10 minutes, bah forcément, on sera tenté de surservir, de prendre des plus grandes quantités. Donc, c'est aussi beaucoup là-dessus qu'il faut jouer. Après, bien sûr, bah, c'est plus de légumes. Hein. Clairement, les fruits, les légumes, c'est des aliments qui sont très riches nutritionnellement parlant et qui sont très pauvres caloriquement parlant. Donc, c'est surtout... Et puis, on manque tous de légumes. Hein. On n'en mange pas assez. Donc, c'est souvent là-dessus qu'il faut aussi jouer.
Donc, il faut jouer sur le contenu de l'assiette, mais aussi sur le rythme. Vous m'avez dit, il ne faut pas manger trop vite.
Voilà, c'est ça. Vraiment, essayer de manger... Alors, se poser le plus possible, profiter de son repas, pas avoir des écrans à côté, la tablette, le téléphone ou voilà, la télé peut-être en
fond. Ça, c'est dur.
Ouais, c'est difficile. Bah, surtout en télétravail, au final, on est tout seul chez soi, là, et du coup, c'est vrai, on est tenté de mettre la télé pour avoir un petit bruit de fond. J'ai beaucoup de personnes dans ce cas-là qui viennent me voir et c'est vrai que c'est compliqué. Après, il faut vraiment manger en fait en pleine conscience. C'est vraiment
oui,
ça.
Oui, c'est
quoi.
Ce que j'allais dire, en pleine conscience.
Ouais,
hein.
C'est vraiment ça. C'est... Et du coup, on aura plus la saveur aussi des aliments, on va plus déguster et on sera moins tenté de se resservir parce qu'on ne sait pas au final ce qu'on a mangé. Donc là, on déguste, on mâche tranquillement, on pose sa fourchette entre chaque bouchée pour justement pas enfourner trop vite.
On mastique ?
On mastique, voilà, c'est ça. Bah, je dis toujours aux gens, hein, votre estomac, il n'a pas de dents. Donc forcément, si on avale sans mâcher... Après, en plus, il y aura des troubles digestifs associés aussi, hein, souvent ballonnements, maux de ventre. C'est très, très fréquent chez ces personnes-là qui mangent trop vite. Et en même temps, ça nous permet vraiment de réguler les quantités qu'on consomme.
Alors, quelles sont les règles de base donc, de l'équilibre alimentaire dans l'assiette ?
Alors, bah, si on a notre assiette devant soi, c'est bien de la diviser en 3 parties, on va dire, hein, grosso modo. Donc vraiment, remplir la moitié de son assiette de légumes. Hein, se dire l'équivalent du volume de vos 2 poings fermés en légumes, ça c'est... voilà. Et après, on va moduler bah, du féculent, donc pâtes, pommes de terre, boulgour, légumineuses, les lentilles, oui, voilà, vraiment tout ce qui est féculent. Ça va être en fonction de son appétit et de son activité. Mais si on a un repère d'un quart, un tiers d'assiette pour la moyenne de la population, c'est pas mal si on a encore peut-être du pain à côté, éventuellement. Et puis, finir par la protéine. Donc, normalement, une portion de viande, ça fait 100 grammes. C'est l'équivalent d'un steak haché, hein, en taille, en épaisseur. Le poisson, c'est l'équivalent de toute votre paume de main ouverte, par exemple. Ça fait 150 grammes. Les œufs, ça va par deux. Voilà. Et on n'est pas obligé d'avoir des protéines animales midi et soir, hein, pas du tout. Vraiment, on module comme on veut. On peut remplacer par des légumineuses, par exemple. Voilà. Mais vraiment, la moitié de l'assiette, des légumes, quoi.
Le pain, c'est pas interdit ?
Non. Faut juste bien le choisir. C'est sûr que le pain blanc, c'est moins intéressant nutritionnellement parlant. Après, il y a tout un tas de pains. Maintenant, on peut faire son pain soi-même aussi, si on veut. Enfin, un pain au levain, c'est très bien parce que c'est très digeste. C'est plus digeste, hein, le levain. C'est comme si c'était prédigéré, ce pain. Donc, ça, c'est intéressant. Vraiment, limiter aussi tout ce qui est industriel, un pain de mie, tout ça, c'est moins intéressant parce qu'il y a du sucre à nouveau.
Oui, il faut préférer donc le pain aux céréales, c'est
ça ? Oui, par exemple, ouais, vraiment des pains plus riches en fait, où la farine est moins raffinée, donc qui apporteront plus de fibres. Et encore une fois, les fibres, comme dans les légumes, c'est ce qui joue sur notre satiété. Hein, ça régule notre satiété, ça forme un gel dans l'intestin, donc vraiment, on se sent rassasié plus longtemps. Un repas sans fibres, on sera tenté de grignoter davantage aussi, parce que justement, on n'a pas ce côté rassasiant.
Donc les fibres indispensables. Alors les fibres, oui. On les retrouve dans
Dans les légumes, donc dans les fruits aussi beaucoup, dans tout ce qui est céréales complètes, donc les pâtes complètes, le riz complet, les légumineuses, le pain complet, dans les graines aussi, hein, graines de chia, graines de lin, tout ça, dans les amandes avec la peau autour, hein, donc ça c'est très intéressant. Après, il ne faut pas non plus du jour au lendemain majorer sa consommation de fibres de manière exponentielle, sinon on risque d'avoir des troubles digestifs parce qu'on n'est pas habitué, en fait. Hein. Donc, il faut y aller progressivement.
Progressivement pour, pour l'introduction des fibres.
Des fibres, voilà.
Qui dit manger sainement, ça veut dire aussi une bonne organisation et savoir cuisiner ?
Alors, savoir cuisiner, c'est sûr que c'est un plus. Souvent, si on aime ça, c'est un plus aussi parce que, on va quand même avoir plaisir à passer du temps en cuisine, faire des plats pour sa famille, etc. Après, j'ai plein de gens qui viennent me voir et qui me disent moi, la cuisine, c'est vraiment pas mon truc. Du moment qu'on respecte l'organisation de l'assiette, comme je vous l'ai décrite avant, c'est surtout ça l'important. Et on n'est pas obligé de faire un plat très élaboré à chaque fois. Et puis, il y a des recettes très simples aussi, hein, qu'on peut faire assez rapidement, qui ne nécessitent pas forcément des temps de préparation très longs. Et c'est sûr qu'avec nos vies actuelles, c'est parfois difficile de passer encore 2 heures au fourneau le soir en rentrant chez soi. Donc, vraiment respecter cet équilibre dans l'assiette et puis pas forcément cuisiner des plats à chaque fois, quoi. Maintenant, c'est vrai que le fait de s'organiser en amont, hein, de préparer sa liste de courses, par exemple, pour aller faire ses courses, de savoir en amont, j'ai tel menu de prêt, c'est aussi un plus pour garantir l'équilibre alimentaire.
On parle souvent du régime crétois, riche en huile d'olive, poissons, fruits et légumes. Est-ce que ça reste aussi les bases d'une alimentation saine ?
Oui, tout
régime,
à fait.
J'aime pas, comme vous l'avez dit, vous n'aimez pas trop ce mot, mais oui, l'alimentation méditerranéenne.
C'est ça. Il y a des nouvelles recommandations qui ont été élaborées par le PNNS, donc le Programme National Nutrition Santé. Donc, ces recommandations, elles ont vraiment été émises pour le grand public en 2019. Et ça rejoint très fortement, justement, ce régime crétois. Donc, on essaye vraiment de majorer l'apport en fibres, hein, donc sous toutes leurs formes. On nous dit maintenant de consommer des aliments complets au moins une fois par jour. Donc, pain complet, pâte complète, riz complet, etc. D'avoir toujours les 5 fruits et légumes par jour, hein, ça. De manger moins de viande rouge, à raison de 500 grammes par semaine maximum. Ceci parce que c'est déjà plus riche. Mais aussi, la viande rouge est responsable des cancers colorectaux. Donc, vraiment, en surconsommation, c'est mauvais pour notre santé. Donc, privilégier la viande blanche, le poisson, encore une fois. On nous dit de manger du poisson gras une fois par semaine pour les oméga-3. Donc là, c'est de la protection cardiovasculaire. Hein. Ça nous protège du taux de cholestérol trop élevé, des maladies cardiovasculaires, etc. Donc, ça rejoint vraiment le régime crétois. L'huile d'olive est présente, elle aussi. On nous dit de l'utiliser en cuisson douce des aliments, et puis de compléter avec de l'huile de colza ou de l'huile de noix pour les assaisonnements. Là, c'est vraiment aussi pour apporter davantage d'oméga 3.
Donc oui, les oméga 3, c'est important. Hein.
Très important. On n'en consomme pas assez. Et vraiment, c'est ce qui est protecteur, c'est antioxydant, anti-inflammatoire surtout. Donc c'est vraiment protecteur des maladies cardiovasculaires qui, de par chez nous, sont quand même une cause de mortalité très élevée.
Oui, les oméga 3, moi j'ai toujours retenu, il y en a beaucoup dans les sardines.
Oui, non, c'est vrai.
Dans le maquereau.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Les poissons gras, c'est ça. C'est sardines, maquereau, hareng, le saumon aussi, hein. Donc, c'est des poissons gras. Alors, il ne faut pas les consommer plus qu'une fois par semaine, malheureusement, parce que c'est aussi des poissons qui sont très pollués. Donc, pour avoir les bénéfices, mais pas les risques liés à cette pollution, on dit une fois par semaine une portion, quoi.
Oui, c'est compliqué hein, quand même. Hein. On voit aussi qu'il faut manger sain et il faut faire attention aussi si c'est écologique, c'est ça?
Ça aussi. Alors ça, c'est tout nouveau. C'est dans ces dernières recommandations du PNNS. On a intégré une dimension écologique et aussi la dimension justement contaminant qu'on retrouve dans nos aliments. Donc on nous dit de manger davantage bio, de saison, privilégier les circuits courts, tout ça. Et puis c'est vraiment des choses qui sont aussi très importantes pour notre santé. Alors c'est vrai que ça peut être un peu anxiogène hein, parce qu'au final on veut bien faire, mais quand on fait bien, il y a quand même toujours quelque chose qui nous rattrape quelque part. Mais voilà, je pense que si on essaye de raisonner un peu sur les tendances finalement actuelles, le circuit court, tout ça, avec le Covid, c'est un peu ce qu'on a entendu aussi, ce qu'on nous a dit de faire. Donc, ça rejoint un petit peu tout ça, finalement.
Et en cette période hivernale et en pleine épidémie, quels sont les aliments pour booster son immunité?
Encore une fois, les fruits et légumes, riches en vitamine C, notamment. La vitamine C, elle va être importante pour ça, pour nous protéger, garantir une bonne immunité. La vitamine D, il y a des études qui ont été menées par rapport au Covid, justement, qui ont montré que des carences en vitamine D pouvaient être à l'origine de formes plus sévères de Covid. Donc, vraiment, en plus, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément très facilement dans l'alimentation, à moins que vous preniez une cuillerée d'huile de foie de morue tous les matins, mais c'est très rare quand même. Hein.
Vitamine D, c'est dans l'huile de foie de morue.
Alors, surtout, ouais. C'est une vitamine qui est liposoluble, donc elle va être présente plutôt dans les aliments gras. Donc, le beurre, le lait entier, les poissons gras, les foies des poissons gras, donc ça, c'est très riche. Après, on n'en consomme pas beaucoup. Hein, et puis, le beurre, pour avoir nos besoins journaliers en vitamine D, il faudrait manger la plaquette de beurre.
Oui, ça fait un peu beaucoup.
Voilà.
C'est pas sans conséquence.
C'est ça. Donc, comme en plus, c'est une vitamine qu'on synthétise par la peau au soleil, bien sûr, en ce moment, c'est un peu compliqué. En plus de ça, on sort pas. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est peut-être utile d'aller chez son médecin pour se faire prescrire une petite ampoule de vitamine D, au moins pour l'hiver, quoi. Ça, c'est une bonne chose aussi, un bon réflexe.
Une ampoule de vitamine D.
Voilà.
Sinon, on parle d'aliments, entre parenthèses, miracles. J'ai entendu parler du curcuma, du gingembre, de la spiruline, du kiwi, des amandes. Dites-moi un petit peu, c'est quoi ces... Quels sont ces aliments qui ont vraiment des vertus?
Ouais. Alors, le curcuma a des vertus anti-inflammatoires, effectivement. C'est une épice qu'on peut intégrer dans ses préparations au quotidien, finalement. Toutes les épices, de manière générale, sont intéressantes, les herbes aussi, hein, ce qui nous permet de réduire significativement la teneur en sel de nos préparations, parce que le sel, encore une fois, ça c'est plutôt mauvais, à trop forte dose, bien sûr. Donc, toutes ces épices sont intéressantes. Sur l'immunité, il y a quand même l'ANSES qui a mis des restrictions par rapport aux compléments alimentaires à base de curcuma parce que ça pouvait interférer par rapport au Covid. Donc, ça pouvait enclencher la réaction inflammatoire, justement, vu que c'est anti-inflammatoire. Donc, ça, c'est vraiment au cas par cas. Il ne faut pas...
Pas de surdosage.
Ouais, et puis, je pense qu'il ne faut pas faire sa petite cuisine tout seul dans son coin. Les compléments alimentaires, finalement, si on a une alimentation équilibrée, on est pas censé en avoir besoin. Moi, dans mon quotidien, hors cas particulier, mais pour le bien portant, on va dire, pour la personne saine, je conseille pas de compléments alimentaires.
On est censé... C'est dangereux, les compléments alimentaires?
Ça peut, dans certains cas, oui, des surdosages ou quoi, ça peut être dangereux. Maintenant, encore une fois, si on a une alimentation équilibrée, on est censé tout devoir y trouver, quoi.
Et il est préférable de trouver l'aliment dans sa version naturelle que plutôt dans un cachet.
Souvent, oui. Je prends l'exemple du calcium, par exemple. C'est vrai que le calcium qui est dans les aliments est beaucoup mieux assimilé que le calcium qui va être d'origine médicamenteuse, par exemple. Alors, je dis pas, il en faut des fois, hein, bien sûr. Ça, c'est toujours au cas par cas. Si votre médecin vous a prescrit des comprimés de calcium, il faut les prendre. Mais juste pour dire que dans les aliments, ce sera toujours mieux assimilé que la forme fabriquée, quoi, on va dire ça comme ça, quoi, de synthèse.
J'entendais aussi souvent que l'amande était un très bon produit.
Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, dans ces dernières recos, on nous dit maintenant de consommer une petite poignée d'oléagineux par jour. Donc, vraiment une petite poignée. Effectivement, ça ramène beaucoup de calcium, l'amande. Il y a des fibres aussi, si on la prend avec la peau. Et puis, il y a des protéines aussi à l'intérieur. Donc, c'est intéressant. Il y a de bons acides gras. Ma foi, ça reste gras. On peut faire de l'huile avec, donc voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus surconsommer.
Vous avez dit une petite poignée.
Voilà, vraiment.
Alors, je lisais aussi dans un magazine la spiruline, mais ça, j'en vois pas souvent en rayon. C'est vrai, il y a des vertus pour la spiruline.
Oui, c'est riche en protéines en fait, donc voilà, c'est surtout pour ça hein, qu'elle est vendue. Ça peut être dans le cadre de régimes végétariens ou végétaliens que souvent les personnes le prennent en plus. Après, il faut bien faire attention aussi à l'origine de la spiruline parce que voilà, ce n'est pas forcément un bon produit que vous allez choisir parce que voilà, le packaging, hein, souvent, c'est très vendeur, mais après, on ne fait pas forcément attention aux bonnes choses. Et puis, oui, voilà, encore une fois, l'alicament, il n'existe pas, quoi, hein, c'est vraiment les protéines, la plupart d'entre nous en consommons de trop, au final, par rapport à nos besoins.
Donc. Alors, les protéines, c'est aussi la charcuterie. Est-ce qu'on consomme trop de charcuterie en Alsace?
Alors, bon, la charcuterie, c'est pas tellement les protéines, hein, c'est plutôt le gras.
Oui, c'est plutôt le gras, oui. Alors.
Mais ça dépend des charcuteries. Il y a charcuterie et charcuterie. Effectivement, après, tout ce qui est jambon blanc, bacon, tout ça, il y a de la protéine dedans. D'ailleurs, le jambon blanc, on peut le conseiller comme remplacement de la viande, par exemple. Voilà. Après, oui, on en consomme trop. Hein. Clairement, l'indicateur, c'est notre consommation en sel. En fait, en France, en moyenne, on consomme on va dire 10 grammes de sel par jour. En Alsace, on est entre 12 à 15 grammes de sel par jour.
12 à 15,
ouais.
Oui. Donc contre
les recommandations de l'OMS, c'est 5 grammes de sel par jour.
Donc, deux fois plus.
Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est principalement lié à la charcuterie. Quand on mange la charcuterie, on mange aussi du pain et du fromage souvent. Donc c'est aussi très riche en sel. Mais dans la charcuterie, il y a deux choses qui sont dangereuses. Il y a déjà les nitrites, donc qui sont responsables aussi du cancer colorectal, qu'on est en passe d'essayer d'éliminer hein, des charcuteries d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres moyens de conservation. Donc voilà.
Et puis, oui, on commence à voir du jambon blanc sans nitrite.
Voilà,
alors qu'est-ce qu'on met à la place ?
Eh bien, souvent du sel, hein, quand même. Il y a beaucoup de produits qui, du coup, vous voyez le Nutri-Score, je ne sais pas si vous voyez ce que
oui,
c'est,
oui. Hein,
les petits logos A, B, C, D, E.
Oui, avec ses couleurs.
Voilà. Donc, souvent, les jambons sans nitrite, ils ne sont plus dans le A parce que, ou dans le B parce qu'il y aura davantage de sel que sur un autre jambon. Donc, il faut, voilà, faut un petit peu biaiser comme ça. Si ce n'est pas du sel, ça peut être aussi du sucre. Donc, bon, voilà. On essaye de faire comme on peut. Hein, les industriels. Font comme ils peuvent pour conserver l'aliment. Parce que la charcuterie, c'est quand même quelque chose qui est très sensible et qui peut être source de toxi-infections alimentaires si on n'a pas justement toutes ces mesures-là.
Oui, le jambon blanc donc, a été récemment accusé d'être cancérigène
ouais.
À cause de ses nitrites. Mmh. Oui, certains médecins même l'ont banni.
Oui. Après, je ne pense pas qu'il faille bannir quelque chose. Hein. Vraiment, ça, c'est encore le maître mot dans l'équilibre alimentaire, c'est qu'il ne faut rien bannir. Mais peut-être avoir une consommation plus raisonnée et se dire, oui, par exemple, mon péché mignon, je sais pas, c'est la pâte à tartiner. Et une fois par semaine, je m'autorise la pâte à tartiner au petit déjeuner le matin, par exemple. Mais de bannir des choses, c'est aussi frustrant et source de peut-être de stress quand même aussi hein, par rapport à l'alimentation, encore en plus que par rapport à tout ce qui nous arrive en ce moment.
Où on se dit, je vais pas manger du saucisson tous les jours.
Voilà, oui, ça, de toute manière, oui.
Alors après donc les charcuteries, on dit souvent attention au sucre. Faut-il s'en méfier du sucre ?
Oui. Alors bon, il y a sucre et sucre. Hein. Le sucre qui est naturellement présent dans les aliments, notamment dans les fruits, dans les féculents aussi. Hein, ça c'est du sucre qu'il nous faut, hein, pour notamment pour notre cerveau, parce que c'est notre cerveau qui consomme le plus de sucre. Hein. Et ce sucre-là, il pose pas trop problème. Finalement, c'est le sucre qui va être ajouté dans les aliments par les industriels qui va le plus poser problème, parce qu'il est vraiment en plus, le sucre ajouté, hein, vraiment qu'on appelle ça comme ça. C'est aussi le sucre que nous, on va rajouter bah, dans son café, dans sa tisane, etc. Donc ça, ce sont les sucres qui posent souci parce qu'en plus, ils nous rendent un peu accros. Et puis, à terme, bah, ils sont responsables, pareil, bah, de prise de poids, d'obésité, de diabète. Hein. On peut aussi être responsable d'une élévation de sa glycémie. Et puis, à long terme, ça peut créer du diabète. Et puis, ce qu'on entend aussi de plus en plus souvent, c'est le NASH, hein, le fameux foie gras. Donc ça aussi, c'est souvent le fructose qui est impliqué dans justement ce foie gras, quoi, hein, la surconsommation de fructose. Et le fructose est très présent dans tout ce qui est soda, par exemple, aussi, hein, et très rajouté aussi par les agroalimentaires, parce qu'il a un pouvoir sucrant très intéressant, donc ils peuvent en ajouter des petites quantités pour avoir l'effet escompté, quoi.
Parce qu'il y a de plus en plus de pathologies NASH.
Oui, alors bon, j'ai pas les chiffres, mais c'est des choses que mes anciennes collègues du CHU croisaient quand même assez souvent. Ça peut déboucher sur des cirrhoses hépatiques, quoi. C'est vraiment très dangereux, quoi. Hein, vraiment.
Alors, dans l'industrie agroalimentaire, quels sont ces produits traîtres ?
Eh ben, alors, le sucre, on va déjà le trouver bah, dans tout ce qui est viennoiserie, gâteau, chocolat. Alors là, c'est un peu là où on l'attend, finalement. Après, on va aussi beaucoup le trouver dans tout ce qui est plat préparé, dans les sauces. Hein, je pense au ketchup, aux sauces que nos enfants prisent beaucoup. On en trouve aussi dans les charcuteries, justement, hein, dans des quantités assez intéressantes. Puis dans tout ce qui est plat préparé, vous allez souvent retrouver du sucre. Ça ramène du goût et puis ça permet aussi une conservation.
On peut dire que les plats préparés, c'est pas bon pour la santé. Il faut quand même mieux cuisiner avec de vrais produits de base.
Ouais, il vaut mieux. Hein, il vaut mieux. Souvent, en plus, le problème de ces plats préparés, même si vous avez un Nutri-Score qui est pas mal, c'est que bah, vous n'avez pas grand-chose dans votre assiette. Il n'y a pas assez de légumes, encore une fois. Donc, vous n'allez pas être rassasié. Et puis, tenter de grignoter à nouveau.
Il y a beaucoup de sel ?
Il y a beaucoup de sel. Dans une assiette de soupe en brique, il y a 3 grammes de sel quand même. Hein. C'est hallucinant.
Ah oui.
Donc, voilà.
Donc, il vaut mieux se faire sa propre soupe.
Ah oui, il vaut mieux. Oui, largement. Oui, tout à fait. Et puis, il y a souvent beaucoup d'additifs controversés aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment... Il vaut mieux cuisiner soi-même. Au moins, on sait ce qu'on a dans l'assiette, quoi.
Et Christine Abalde, on revient sur vos propos de départ. En fait, vous disiez que certains salariés ne mangent plus à la cantine de leur entreprise et ont perdu du poids en cuisinant.
Oui, vraiment. Après, il y a cantine et cantine aussi. Hein. Je connais des personnes qui ont de très bonnes cantines. Mais oui, c'est sûr que de faire soi-même, c'est quand même mieux que le plat préparé, ça c'est clair.
Ou que le plat surgelé.
Tout à fait.
aussi. Oui, alors les enfants aussi, parfois on s'inquiète. On voit beaucoup de produits sucrés. Est-ce qu'il faut être vigilant sur l'alimentation des enfants ?
Oui, tout à fait. Surtout que l'apprentissage du goût, il se fait très tôt. Hein. Déjà, on sait que le fœtus dans le ventre de sa maman, il goûte le liquide amniotique et il a déjà le goût des aliments que la maman va manger. Donc vraiment, ça se fait très très tôt.
C'est pour ça aussi qu'on est de plus en plus vigilant sur le diabète gestationnel.
Tout à fait, oui, bien sûr. Bon, alors ça, c'est encore autre chose.
C'est le diabète pour la femme enceinte, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Mais c'est pris de plus en plus tôt pour éviter qu'ensuite, le futur bébé devienne lui aussi diabétique.
Voilà, c'est ça. Et en surpoids aussi, hein, c'est des causes de surpoids chez les enfants si la maman a du diabète gestationnel. Donc oui, on est beaucoup plus vigilant par rapport à tout ça. Et une bonne nutrition, déjà pendant la grossesse, c'est très, très important, bien sûr, pour la maman et pour le bébé, hein, ça, c'est clair. Et puis, au moment de la diversification alimentaire, c'est aussi là où il faut faire attention de ramener les bons aliments. Effectivement, si vous montrez vous-même que vous cuisinez et que vous préparez les choses, l'enfant, il sera aussi tenté de manger ce que vous mangez. Ça, c'est normal. Il recrée ce que fait le parent. C'est sûr que c'est indissociable, finalement. Et puis après, de temps en temps, bien sûr, on peut leur proposer des Kinder ou d'autres barres chocolatées. Ça, c'est, il faut, hein, ils seront de toute façon amenés à en manger. Il ne faut pas
Mais c'est vrai, quand on est parent, parfois on est obligé de lutter quand on voit des rayons avec plein de céréales et qu'on lit un article. Ah non, les céréales pour les enfants, c'est trop sucré pour
les
petits-déj.
Les céréales, vraiment, ça c'est.
Qu'est-ce qu'on fait?
C'est mon combat quotidien. Les céréales pour les enfants, c'est un peu la cata. Mais bon, après, les industriels font de plus en plus d'efforts, on va dire. Parce
mais
que...
vous dites, c'est la cata, les céréales pour les enfants?
Oui. Alors en fait, souvent, c'est très pauvre en nutriments, finalement. C'est très sucré, la céréale est soufflée, il y a beaucoup de sel aussi à l'intérieur, il se peut qu'il y ait du gras. L'enfant ne va pas être calé avec ça. Enfin, je dis l'enfant, des fois les adultes en mangent aussi encore.
Mais... parce que le sucre appelle le sucre?
C'est ça. Ouais, vraiment. En plus de ça, si on mange quelque chose qui est très sucré et dont le sucre va être assimilé rapidement par l'organisme, on aura faim aussi très rapidement après. Et puis quand on a faim, qu'est-ce qui se passe? On va pas aller chercher le brocoli dans le frigo, on va aller chercher la barre de céréales ou la tablette de chocolat. Vous voyez, donc c'est vraiment un circuit de la récompense finalement au niveau du cerveau. C'est que le sucre, c'est quelque chose qui nous fait du bien, quoi. Donc c'est là où il faut être vigilant.
C'est compliqué parce que pour faire manger les tartines de beurre aux enfants, c'est plus difficile que les céréales au chocolat.
Ouais. Après, tout est question d'habitude. Si vous ne leur présentez pas, ils seront forcément moins tentés aussi de les consommer.
Forcément. Il y a d'autres produits aussi beaucoup trop sucrés qui sont bien souvent proposés aux enfants.
Je vois justement ma fille a 20 mois, donc c'est vrai que j'étais confrontée à ça il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que dans le choix des produits laitiers, par exemple déjà pour les enfants, les yaourts pour les enfants, où y a tout, le rayon est plein, le rayon infantile il est plein de choses. Et puis quand on prend l'aliment et qu'on retourne l'étiquette, alors oui c'est un peu mon défaut à moi, mais voilà, on s'aperçoit qu'il y a déjà plein de sucre, alors que on n'est pas obligé de leur présenter tout de suite du sucre. Après forcément ils mangeront plus quelque chose qui n'en contient pas. Un yaourt nature ou un petit Suisse nature standard, ça va très bien, il n'y a pas besoin de toutes ces choses là quoi, finalement.
Attention, aussi sur les yaourts trop sucrés.
C'est ça, oui.
On note une tendance, le jeûne, des jeûnes parfois sur plusieurs jours. Est-ce que c'est bon pour la santé ou au contraire, rien ne le prouve?
Alors, il y a différents jeûnes. Faut savoir que vraiment, on en trouve de toutes sortes. Les jeûnes longs, vraiment, sont à prendre avec des pincettes. Déjà, il y a quand même peu d'études qui ont été faites sur l'homme. C'est des études qui sont faites sur les animaux. Donc, pour le transposer à l'homme, après, faut y aller avec... faut y aller doucement. Et puis, ce qui se passe dans le cas de restriction calorique très forte, c'est encore une fois, c'est la perte de masse musculaire. Et ça, c'est vraiment pas bon, je le répète, mais... le fait de perdre du muscle de manière très rapide, c'est mauvais pour la santé parce qu'on perd en immunité. Donc vraiment, faut surtout pas le faire dans le cas de cancer, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui circulent là-dessus, sur Internet, les réseaux, que le jeûne pourrait être thérapeutique pour le cancer. Mais non, vraiment, c'est très dangereux. Ça peut engendrer une dénutrition protéique. Et ça, c'est une maladie à part entière contre laquelle on lutte, les diététiciens. C'est vraiment très, très mauvais pour la santé et ça tue. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Après, vous avez ce qu'on appelle le jeûne intermittent, où l'idée, c'est plus de jeûner une partie de la journée et puis, en gros, vous mangez votre dîner le soir et puis le prochain repas, ce sera à midi le lendemain. C'est ce que beaucoup de gens font, finalement. Donc, il se trouve qu'effectivement, cette réduction calorique a des effets positifs sur le poids, sur, les maladies du cœur, maladies cardiovasculaires. Ça pourrait avoir des effets positifs pour réguler la glycémie. Mais je dis pas aux personnes diabétiques de le faire, encore une fois. C'est vraiment des cas particuliers où il faut se faire accompagner si on souhaite le faire. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que moi je vais conseiller. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir des bénéfices dans certains cas sur la santé.
Avec le jeûne intermittent?
Oui, plus particulièrement, oui.
Parce que oui, c'est une tendance. En ce moment, c'est un créneau de 8 heures pour vous nourrir et le reste du temps, 16 heures, vous jeûnez.
C'est ça.
Il peut y avoir, c'est quoi les bénéfices dans ce cas-là?
Eh bien justement, il y a dans l'étude que j'ai trouvée, il y avait une réduction de la masse pondérale, donc une perte de poids, une perte de masse grasse. Il y avait un taux de mauvais cholestérol qui était également diminué. Après, ça n'avait pas d'effet sur le bon cholestérol, par exemple. Voilà. Alors bon, après, c'est une étude. Hein. Il en faut sûrement beaucoup d'autres pour arriver à des conclusions. Mais c'est vrai qu'on est quand même susceptible de plus en plus de manger un peu tout le temps et de jamais laisser son système digestif au repos. Donc, ma foi, pourquoi pas profiter du jeûne nocturne qui est déjà une durée assez longue en soi pour le faire, quoi.
On parle beaucoup aussi de la notion de microbiote. Mm-hmm. Vous pouvez nous expliquer cette
notion? Le microbiote, c'est nos bactéries hein, qui sont dans notre intestin. Alors ça, c'est pareil, c'est vraiment des notions qui sont très récentes et il y a encore très peu d'études qui ont été faites chez l'homme, c'est beaucoup chez l'animal. Mais en gros, le microbiote intestinal pourrait être impliqué dans des pathologies aussi ou dans notre bonne santé ou dans notre prédisposition à quelque chose. Que ce soit un cancer ou un diabète ou que sais-je, enfin voilà, c'est des choses qui sont en cours d'exploration et pour l'instant autant prendre soin aussi de son microbiote par une alimentation saine, parce que finalement, encore une fois, c'est les fibres qui sont dans les fruits et les légumes, les aliments complets qui vont donner à manger à ces bonnes bactéries qui sont présentes naturellement dans l'intestin.
Donc, et on voit des connexions entre le cerveau et le microbiote.
Oui, tout à fait. Oui,
notre deuxième, deuxième cerveau, c'est dans l'estomac, c'est ça ?
C'est ça, dans l'intestin. Il y a vraiment un axe cerveau-intestin, hein, ça s'est prouvé. Je rencontre aussi des patients qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable et où vraiment on constate que, d'autant plus, je vous disais, on mange nos émotions, là, c'est clairement ça. Il y a un lien, on est stressé, on a une augmentation des douleurs au niveau intestinal. Et à l'inverse, la douleur va aussi avoir un effet sur notre état émotionnel et psychique. Donc, tout est relié, ça c'est sûr, hein, tout à fait.
Et Christina, pour revenir sur les régimes, vous m'avez dit que c'était mauvais, ça fait grossir. Vous envoyez des patients qui ont fait les régimes Weight Watchers ou autres, qui reviennent chez vous et qui ont grossi?
Oui. En général... c'est un peu typique, hein. C'est les personnes qui sont en fort surpoids, voire obèses. Quand je leur demande justement quel est votre parcours par rapport au poids, souvent elles ont tenté tout un tas de régimes. Et au final, c'est pour certaines l'élément déclencheur, hein. Il y avait un petit surpoids au départ, et puis elles vont tenter un régime, et puis après c'est la catastrophe parce que frustration, on craque, on culpabilise, on recommence et ça mène l'effet yo-yo, donc hein, prise de poids, perte de poids rapide et prise de poids rapide par la suite, et c'est ce qui vous fait prendre des kilos.
On peut prendre 20 kilos
en ayant
essayé une démarche de régime.
Oui, bien sûr, tout à fait. Moi, ce que je conseille aussi souvent, c'est d'avoir un accompagnement psychologique, hein, parce que encore une fois, on mange en fonction de ce qui nous arrive aussi, hein, et souvent on compense parce que on peut compenser par l'alimentation parce qu'il nous est arrivé quelque chose. Et l'accompagnement psychologique, il se fait souvent en simultané avec l'accompagnement nutritionnel. Hein, ils vont ensemble, tous les deux vont vraiment ensemble.
Oui, dans votre pôle médical à Oberhofen-sur-Moder, vous travaillez aussi avec une psychologue ?
Oui, tout à fait, oui. J'en ai dans ce pôle-là, dans un pôle à Drusenheim également. Et alors il y a une sophrologue également hein, qui est présente et qui œuvre aussi là-dedans. Donc c'est vraiment des prises en charge complémentaires. Hein. On essaye vraiment de prendre la personne, le patient dans sa globalité, quoi.
Oui, c'est un binôme indissociable qui doit fonctionner ensemble pour prendre en charge le patient pour une perte de poids.
C'est ça. Après, c'est au bon vouloir du patient. Hein. Et puis, c'est vrai que c'est des frais aussi supplémentaires. On n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, voilà. Mais si la personne veut le faire de manière durable, oui, c'est vraiment quelque chose de très complémentaire.
Et parmi les régimes, je reviens encore là-dessus, j'ai vu en Allemagne une grande tendance, le régime keto. Quel est votre point de vue ?
Je crois que c'est un effet de mode un petit peu, hein, comme tout ce qu'on entend, ou sans gluten, sans lactose, tout ce genre de régime-là qui surfe sur la vague des... Au départ, il y a toujours une nécessité thérapeutique, on va dire. Hein. Le régime cétogène, il est employé par mes collègues du CHU de Strasbourg, notamment beaucoup en pédiatrie. Pour le cas de jeunes patients qui ont des maladies métaboliques et qui ne peuvent physiologiquement pas assimiler un certain type de nutriments.
Parce que cétogène, ça veut dire quoi exactement ?
En fait, on va priver l'organisme de sucre, donc de glucides, hein, que ce soit les glucides rapides, si je peux dire ça comme ça, ou les glucides lents, donc féculents, fruits, toute source de sucre sera à éviter, hein, supprimer même, et on va charger beaucoup en gras en fait, hein, pour compenser, pour avoir des calories au final. Hein. Et du coup, l'organisme va, je vous disais, le cerveau il consomme du sucre, hein, donc pour avoir justement ce produit-là, l'organisme va créer des corps cétoniques, hein, c'est la cétogenèse, et du coup c'est de là que vient ce régime, le nom de ce régime cétogène, quoi.
Oui, j'ai vu des poudres avec du keto. Oui. C'est de la poudre de perlimpinpin.
Je ne sais pas de quoi c'est constitué, hein, je ne peux pas vous dire clairement. Maintenant, encore une fois, ça commence à aller dans le régime restrictif. Et oui, ça peut être dangereux, notamment sur le long terme, quoi.
En tout cas, aujourd'hui aussi, le gras est quand même un peu réhabilité. Il y a une époque où on disait attention, alimentation trop grasse,
oui,
c'est pas bon.
C'est vrai.
Mais aujourd'hui, on a l'impression que le gras, c'est pas si mauvais.
Ouais.
Le sucre est plus mauvais que.
On a longtemps diabolisé le gras, hein, c'est vrai. En fait, un gramme de gras, ça ramène 9 kilocalories. Un gramme de sucre ou de protéines, ça en ramène 4. Donc, vous voyez que forcément, le delta, il est déjà présent là. Donc, si on veut perdre du poids, on enlève du gras, c'est entre guillemets facile. Maintenant, il y a vraiment gras et bon gras, mauvais gras, bon gras, voilà. Et c'est ça qu'il ne faut pas diaboliser non plus, c'est essayer vraiment d'avoir un peu tout, de ne pas enlever les gras, bien sûr, de ne pas en avoir de trop, ça c'est sûr, mais d'en introduire quand même. Hein. Moi, dans l'équilibre alimentaire, justement, je dis aux gens, mettez votre cuillère d'huile dans votre plat, c'est important, votre cerveau en a besoin, votre cœur, voilà, c'est très important.
Le bon gras, c'est l'huile d'olive ?
Alors, l'huile d'olive, oui, elle est bonne parce qu'il y a de la vitamine E, notamment, dedans, celle-là, elle est antioxydante. Et puis, je vous disais, les huiles de colza et de noix, hein, riches en oméga-3, donc ça, c'est vraiment du bon gras, qu'on ne consomme pas assez. Hein. Il y a ce rapport entre oméga-3 et oméga-6 aussi qui est important. On consomme trop d'oméga-6 et pas assez d'oméga-3. Et du coup, on essaye d'en apporter davantage par le biais de ces huiles-là, des poissons gras, de certains végétaux aussi. Hein. Il y en a beaucoup dans la mâche. En ce moment, c'est la saison, donc il y en a beaucoup dans la mâche. Ça, c'est intéressant. Et puis, il y a les produits aussi de la filière bleu-blanc-cœur qui sont intéressants. C'est une filière agricole. Alors, ce n'est pas du bio, mais l'esprit est un peu le même. On va apporter des bons nutriments aux animaux, en fait. Hein. Ça va améliorer le profil lipidique des viandes. Donc, du jambon bleu-blanc-cœur, par exemple, aura un taux supérieur en oméga-3 par rapport à un jambon standard.
D'accord. Et le beurre aussi, pendant un moment, est un petit peu banni de l'alimentation,
ouais.
Mais maintenant, il revient. Fin...
Oui. Alors, je vous disais, il y a quand même la vitamine D dans le beurre. Il y a de la vitamine A qui est intéressante pour la vision. On se rend compte qu'une consommation normale, si je peux dire ça comme ça, donc à raison de 10-15 grammes par jour, ça peut très bien entrer dans une alimentation équilibrée, en fait. Hein.
En tout cas, il faut manger de tout en petite quantité.
C'est ça.
C'est ce qu'il faut retenir.
C'est ça, et en se faisant plaisir. Il ne faut pas oublier la notion de plaisir, parce que souvent, justement, comme vous disiez, dans tous ces régimes dont on entend tout le temps parler, la notion de plaisir est complètement mise de côté. Et ça, c'est très, très dangereux. Hein. Encore une fois, ça crée de la frustration et c'est vraiment pas bon pour nous. On n'est pas fait pour être frustrés, en fait. Donc,
il faut écouter son corps.
Oui, je pense aussi. Non. Alors, dans une certaine mesure.
Oui,
hein.
Parce que
voilà.
On ne va pas non plus se jeter sur la tablette de chocolat.
C'est ça. Quoique, le chocolat est quand même intéressant. Hein. Il peut très bien rentrer aussi dans une consommation quotidienne. Dans un carré de chocolat noir à 70% de cacao, il y a quand même autant d'antioxydants que dans deux verres de vin rouge ou dans une tasse de thé vert. Donc, si on aime le chocolat, alors plutôt s'orienter vers ça. En plus, c'est un chocolat qui est quand même assez... on en prend plein la bouche quand on en mange, donc on est moins tenté de finir la tablette qu'avec un chocolat beaucoup plus sucré. Donc, c'est cette notion-là qu'il faut vraiment essayer de garder et de aussi le plaisir d'être ensemble. Alors finalement, en ce moment, c'est compliqué, mais on a vu, hein, on continue les apéros...
Apéro Zoom,
voilà.
Ça va très vite, apéro Zoom, parce qu'on voit la télé en même temps, on discute on a tendance à picorer plus rapidement.
Oui, c'est pas à faire tous les jours. Mais c'est important, il y a cette notion de,
de convivialité.
De convivialité qui est très importante, ouais, tout à fait.
Et c'est vrai qu'on est le pays en France où on passe le plus de temps à table.
Oui, et je pense que justement, cette plaisir de la table et ce côté, bah voilà, on a vu toutes les émissions télé où on cuisinait en direct, voilà. Bah, tout ça, c'est quand même protecteur. Parce que justement, comparé aux pays anglo-saxons ou aux États-Unis, par exemple, ils prennent pas le temps de se poser à table pour manger. Souvent, le déjeuner, bah, c'est réglé en 5 minutes, entre deux portes et un plat préparé, et voilà. Donc ça, ce côté qu'on a, nous, en France, quand même, de convivialité, de on s'assoit, on mange, on profite, c'est plutôt protecteur, justement, pour notre santé.
C'est une chance.
Oui, je pense.
Et Christine Abad, on n'a pas parlé du sport. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi?
Eh ben, c'est indissociable. On ne parle plus aujourd'hui d'alimentation équilibrée sans parler d'activité physique. Donc, je crois que mes anciens collègues du CHU en ont déjà bien parlé.
Pour perdre du poids, le sport est indispensable?
Oui.
Vous
oui.
le conseillez automatiquement?
Oui, automatiquement. Alors, bien sûr, il faut voir par rapport aux capacités de la personne. Mais souvent, ben, voilà, quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de faire du sport, on va peut-être conseiller la pratique du vélo, enfin un sport qui ne sera pas en charge sur ses articulations aussi, si c'est quelqu'un d'obèse. Mais il faut quelque chose, c'est indissociable. Et puis même si la perte de poids se fait par le biais du changement alimentaire, à un moment donné, ça ne bougera plus, il faut faire du sport, c'est obligatoire. Et en plus, le fait de bouger va permettre de maintenir la masse musculaire, donc ce fameux muscle qui peut... qu'on peut perdre en priorité si on perd du poids trop rapidement. Donc ça, c'est vraiment aussi pour ça indissociable.
Donc on retiendra rééquilibrage alimentaire et faire du sport, manger, bouger pour perdre du poids.
En gros, oui, c'est ça.
Merci Christine Abad, diététicienne à Oberhofen-sur-Moder, pour ce podcast. L'essentiel, c'est la santé.